Ce que je voudrais bien essayer de faire avec vous, c'est un peu le point. Mais c'est pas une chose facile, ça, Joël l'a déjà dit ce matin. C'est faire un peu le point avec vous sur, mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans l'enseignement de la communauté française en matière d'éducation relative à l'environnement et du développement durable? Et est-ce que les choses qui se font, si elles se font, sont permises? C'est un peu ce qu'on m'avait demandé de faire aujourd'hui. Autrement dit, si on prend dans l'actualité quotidienne des choses extrêmement banales, la problématique des énergies renouvelables, des économies d'énergie via, par exemple, les installations photovoltaïques. Si on souhaite évoquer dans l'école, qu'elle soit fondamentale ou secondaire, les problèmes de réchauffement climatique. Si on veut traiter, en liaison avec la santé, de toute la problématique des OGM. Ou encore, des émanations de CO2 et de la production de voitures propres, est-ce que les enseignants en communauté française ont facilement accès à travailler ces thématiques-là avec leurs élèves? Sont-ils toujours hors programme quand ils le font, ou sont-ils dans leur programme? Autrement dit, est-ce que nos référentiels permettent, voire incitent les enseignants à développer des problématiques telles que celles-là? Je reviens un peu sur ce qui a été dit déjà abondamment ce matin. Chez nous, en communauté française, ce que l'on trouve comme conception de l'environnement, c'est la conception éducation relative à l'environnement. Joël a bien présenté ce matin les nuances d'éducation à l'environnement pour, par. La communauté française, depuis une bonne vingtaine d'années, a fait son choix. Choix qu'elle partage uniquement avec le Québec. Ce qui nous singularise en communauté française, c'est bien la conception d'éducation relative à l'environnement et pas éducation à ou pour ou par. Et sur le plan conceptuel, l'éducation relative à l'environnement chez nous, c'est dissocié des activités nature, activités écologiques. Cette distanciation, il y a plus de 20 ans qu'elle a été faite. Il y a plus de 20 ans en communauté française que l'éducation relative à l'environnement dépasse de très loin uniquement sa composante écologique. L'éducation relative à l'environnement en communauté est conçue comme ceci, c'est aborder un problème environnemental au sens large et essayer de le travailler au travers de toute une série de composantes, qu'elles soient culturelles, sociales, politiques, économiques, éthiques et écologiques, et c'est d'essayer de voir une solution, si c'est un problème qu'on pose, en essayant de relier toutes ces composantes. On est donc loin, et heureusement, d'une conception écologique. C'est une composante importante, mais ça n'est pas la seule. Donc ça, c'est la conception éducation relative à l'environnement telle qu'on peut la trouver dans des textes en liaison avec l'enseignement chez nous. Et en ça, seul le Québec a une vision qui est relativement partagé avec nous. Si on regarde dans les textes que l'on peut trouver chez nous, une sorte de définition d'éducation relative à l'environnement, je reprends quelque chose que Joël a présenté aussi, mais en mettant en évidence quatre choses. L'éducation relative à l'environnement vise à sensibiliser l'élève à son milieu de vie et à lui faire acquérir des connaissances. On est bien là au niveau des savoirs. À développer chez lui des habiletés manuelles et intellectuelles. On peut regrouper ça sous forme de savoir-faire, ainsi que des attitudes, savoir-être, qui lui permettront d'agir positivement sur son environnement, savoir-agir. Ces quatre choses ramassées en rouge sont des mots clés du décret mission et de tous les référentiels qui en ont découlé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la définition, pour peu que ce soit une définition, de l'éducation relative à l'environnement chez nous en communauté française est quelque chose qui colle parfaitement avec le décret mission et les référentiels qui en ont suivi. J'ai entendu plusieurs fois ce matin, et je partage cette interrogation. Je pense que les assises que l'on va commencer devront clarifier, mais il ne faut pas s'y appesantir, parce que ce serait moche que les assises ne servent qu'à relancer les querelles entre R et EDD. Oh, c'est des querelles que les spécialistes ont déjà eues, elles n'aboutissent en général à pas grand-chose, mais j'étais d'accord ce matin avec une intervention qui disait Est-ce qu'on ne dilue pas un peu l'air dans le DD? Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite pour coller ces deux sigles l'un à l'autre? Je pense qu'il faudra dans les assises quand même un peu réfléchir à ça. Je ne vais pas reprendre la définition du développement durable, mais elle est centrée sur les besoins. Et au niveau sigle, il y en a des centaines, mais le sigle qui est le plus partagé essaie de simplifier ou de représenter le développement durable comme étant à l'intersection de trois grandes préoccupations, les préoccupations économiques, les difficultés ou les projets sociétaux, et puis la troisième sphère qui c'est pour les projets économiques et les projets sociétaux ne peuvent se développer que par rapport à la sphère des ressources, c'est-à-dire les ressources qui sont disponibles, les ressources qu'il faut essayer d'économiser. Vous voyez quand même une chose essentielle, c'est que le mot environnement n'apparaît plus en tant que tel. Où l'environnement est simplement présenté comme étant le potentiel de ressources disponibles. C'est pas anodin. Je veux dire par là que ce serait peut-être bien de faire quand même, dans les assises, une clarification. Et voir comment intégrer. J'ai bien aimé par exemple la présentation des collègues néerlandophones ce matin qui présentaient tous les accrochages ou décrochages entre le RE et le DD. Cette parenthèse étant faite, je reviens à mes quatre exemples. Est-ce qu'un enseignant aujourd'hui, qu'il soit instituteur, régent ou licencié, a facile dans ses activités scolaires à mener des projets environnementaux? Autrement dit, quels sont les textes qui, chez nous, structurent de manière institutionnelle l'enseignement et qui permettent ou qui incitent à développer des apprentissages en liaison avec l'environnement et le développement durable. Chez nous, vous le savez, ça a été dit ce matin, l'école vit depuis 1997 avec un décret mission qui a été voté à l'époque à l'unanimité et qui aujourd'hui régit toujours la vie scolaire. Le décret mission, pour ceux qui ne le manipulent pas tous les jours, ce sont les objectifs, les finalités essentielles que le système éducatif a confiées comme mission, comme tâche aux acteurs de terrain dans les écoles. Le décret mission de 97 a donné lieu dans sa foulée à la rédaction de toute une série de référentiels dont vous entendez souvent parler aussi. Ce sont les socles de compétences qui, pour 8 disciplines, indiquent plus ou moins clairement aux enseignants de 6 ans à 14 ans ce qui doit être fait. C'est quand même une avancée énorme dans notre système éducatif qu'un enseignant de 6 ans puisse voir dans n'importe quelle discipline ce qu'on attend de lui, ce qui sera fait entre 8 et 12 ans et ce qui sera fait entre 12 et 14 ans. La finalité et l'objectif des socles étaient bien de montrer aux enseignants la continuité dans les apprentissages fondamentaux, pour qu'il y ait moins de redondance et pour qu'à côté de ça, il n'y ait pas des pans entiers qui ne soient jamais abordés. Ça, c'était vraiment l'objectif des socles de compétences. Les enseignants du fondamental et les enseignants du premier degré du secondaire travaillent à concrétiser les socles de compétences. C'est leur travail quotidien. Quant aux quatre dernières années du secondaire, du moins pour le général et le technique de transition, ils ont leur propre document disciplinaire cette fois. Ce sont les compétences terminales qui, elles, déterminent les contenus, les thématiques, les domaines à aborder entre la troisième et la réto. Je devrais aussi, pour être complet, parler des profils de formation dans le qualifiant. Comme ça, vous avez alors la palette des référentiels. Référentiels qui ne sont pas les programmes de cours, ça c'est encore un niveau supplémentaire de concrétisation, les socles de compétences, les réseaux, les ont traduits en rédigeant leurs propres programmes qui ne peuvent pas être en incohérence par rapport aux socles ou aux compétences terminales, mais qui permettent d'illustrer très concrètement les choses que les enseignants alors doivent voir. Donc, les socles de compétences et les compétences terminales ne sont pas des programmes. Ce sont des catalogues plus généraux qui, après seulement, ont été traduits en programmes. À partir de là, est-ce qu'un enseignant, est-ce qu'une équipe, est-ce qu'une école peut se lancer facilement dans des projets ERE-EDD? Je n'ai pas été dans le décret mission chercher tous les articles et paragraphes qui permettait de travailler sur l'environnement. La liste serait trop longue. Je n'en ai retenu que deux. L'article 6 du décret mission qui fixe vraiment les objectifs généraux en son point 3, précise que l'enseignement doit préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Après ce qui s'est dit ce matin, il n'y a pas besoin d'un long discours pour voir que c'est tout à fait en phase avec les objectifs que poursuivent l'ERE et l'EDD. Et en son article 73, le décret mission précise au point qu'il se rapporte au projet d'établissement. Pour ceux qui ne manipulent pas ça tous les jours, les projets d'établissement sont des projets qui doivent être faits dans les établissements et revus tous les 3 ans. Les projets englobent tous les acteurs de l'école, je dis bien tous, y compris les parents, qui sont impliqués et dont l'avis est demandé. Et le projet d'établissement doit chaque année donner lieu à un rapport d'activité. Les rapports d'activité repartent vers réseau PO. Et dans le rapport d'activité, en son point 7, on demande donc à chaque chef d'établissement de faire le relevé annuel des initiatives prises en matière de rythme scolaire, d'animation culturelle, d'éducation à la citoyenneté, on en a beaucoup parlé, d'éducation aux médias, d'éducation à la santé et d'éducation à l'environnement. Donc, si les choses se déroulent comme il se doit dans les écoles, chaque année, dans le rapport annuel, on devrait avoir des traces de ce que l'école a fait ou se propose de faire en éducation relative à l'environnement. Donc vous voyez, les grandes balises scolaires non seulement n'empêchent pas des projets environnementaux, mais à la limite les incitent, puisque chaque année, les chefs d'établissement doivent normalement préciser ce qu'ils ont fait en la matière. Si maintenant on descend au niveau des socles de compétences, sur les 8 disciplines qui sont concernées, 3 au moins évoquent l'environnement d'une manière ou d'une autre. La formation en histoire et en géographie précise que l'éveil et la formation par l'histoire et la géographie constituent des domaines où les élèves prennent conscience des problèmes de société et d'environnement. Ça, on ne peut plus clair. Donc ça, c'est de 6 ans à 14 ans. Le cours d'éducation par la technologie, qui est un cours de la formation commune et dont la finalité chez nous en communauté française est de montrer aux élèves et de faire découvrir aux élèves les liens entre technique et science. C'est ça la technologie. C'est le point d'accrochage entre des principes techniques basés sur des fondements scientifiques. Eh bien, les enfants doivent, au travers de situations-problèmes, aborder 6 domaines en éducation par la technologie, dont 3 sont intimement liés à l'environnement. Biotechnologie, technologie de l'alimentation, technologie des matériaux. Donc l'enseignant qui, dans le cadre de son cours, voudrait par exemple travailler sur les panneaux photovoltaïques, n'a aucune difficulté à aborder ce genre de problématique dans son cours d'éducation par la technologie, puisque le domaine technologie des matériaux lui permet sans problème de développer ce genre de séquence. Enfin, la formation scientifique va plus loin encore, puisque dans les socles de compétences en sciences, il y a 6 domaines à aborder, dont le 5e s'intitule « Les hommes et l'environnement ». Et la recommandation qui est faite aux enseignants est la suivante. L'éducation relative à l'environnement s'appuie sur un principe simple. Il ne s'agit pas d'apprendre pour admettre, mais de comprendre pour agir. Ça n'est pas de moi, c'est d'André Jourdan. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au travers des socles de compétences, tout est donc à disposition des écoles, des enseignants, pour qu'ils puissent développer ce genre de projet. En ce qui concerne les compétences terminales, je serai plus bref. Toutes les disciplines le permettent, en particulier les programmes et les référentiels d'histoire, de sciences économiques et sociales, de géographie et la plupart des options de base groupées du qualifiant permettent aussi facilement de développer des projets environnementaux et de développement durable. La conclusion. En ce qui concerne les référentiels, les donc la suivante. Rien aujourd'hui en communauté française dans les textes légaux ne constitue un obstacle à ce que des enseignants, à ce que des équipes d'enseignants se lancent dans de tels projets. Rien. Je pense que c'est une chose que les enseignants parfois sous-estiment et qu'ils font de leur programme un carcan bien plus rigide qu'il ne l'est. De toute façon, pour mes collègues inspecteurs qui m'ont accompagné aujourd'hui,
vous devez quand même savoir que l'inspection n'est pas là pour contraindre les enseignants à faire le programme et rien que le programme. Jamais un inspecteur ne va aller titiller un enseignant parce qu'il a fait quelque chose hors de son programme, à une condition. C'est quand même que le programme en fin d'année soit vu. Voilà. Mais rien n'empêche un enseignant de développer quelque chose qui est même hors de son programme ou qui est en lien vraiment ténu ou indirect avec son programme. Rien n'empêche.
Sa seule contrainte institutionnelle étant quand même en fin d'année d'avoir vu son programme dans la mesure la plus large possible.
Donc voilà, ça c'est le cadre institutionnel. Maintenant essayons un peu de voir comment tout ça se traduit dans les écoles. Est-ce qu'on bouge dans les écoles en communauté? Est-ce qu'on bouge beaucoup? Est-ce qu'on bouge pas beaucoup? Ben, moi j'ai envié ce matin le collègue Nermandophon qui nous présentait des statistiques, même par province, avec le nombre d'écoles en projet MOS. Je l'enviais, parce que moi, ce que je vais à peine vous présenter, c'est une estimation à la grosse louche. Parce qu'en communauté française, ma démonstration, c'est qu'il y a du dynamisme, beaucoup de dynamisme, mais un dynamisme incontrôlé. Par rapport aux
résultats que le collègue néerlandophone vous a présentés. Est-ce qu'au niveau scolaire, on a des indicateurs de dynamisme d'écoles qui font des projets de l'environnement? Ben, deux choses. La communauté française et la région wallonne disposent de centres, vous les avez entendus ce matin, il y a les CRIE pour la région wallonne, il y a les CDPA pour la communauté française. Est-ce que les écoles y vont dans ces centres-là? Et deux, depuis 2004-2005, on a lancé à l'initiative du monde politique le concours éducation relative à l'environnement et au développement durable dans l'enseignement secondaire. Quels sont les chiffres dont on dispose? Au niveau des centres de dépaysement de la communauté française, au nombre de 10, ils accueillent en moyenne 28 000 élèves par an pour faire des semaines environnement, développement durable ou écologie. En gros, c'est tout ce qui est écologie, environnement, développement durable. 28 000 élèves par an en moyenne. Les 11 CRIE de la région wallonne touchent chaque année plus ou moins 30 000 élèves. Si on fait le total, 60 000 élèves par an ont quand même une information, voire une formation dans le domaine environnemental. Ça n'est pas mince. Au niveau du concours R, qui est lancé depuis 2004-2005, ben, sur les 510 établissements d'enseignement secondaire, 93 ont rentré des projets, dont 24 ont été retenus et soutenus financièrement. 93 établissements sur 510, ça n'est quand même pas mal non plus. Plus tous ceux qui font des projets, mais qui n'ont pas rentré de demande. On peut donc dire qu'on peut essayer de faire une tentative de bilan de ce qui se fait en communauté française. Quels sont les points positifs que je relève? D'une part, quand on examine les projets et quand on va dans les écoles, on a de véritables projets transversaux qui développent vraiment des démarches actives au niveau des élèves. On est très proche de l'approche par compétences que l'on souhaite voir développer au niveau des référentiels. On est passé des années 80 aux années 2000, on est passé de projets écologiques menés quasi exclusivement par les profs de sciences vers des projets transdisciplinaires conduits par des équipes avec parfois modification du projet d'établissement. Donc c'est quand même une fameuse évolution ça, en 20 ans. On a renforcé fortement la cohésion entre les acteurs de la vie scolaire. Les projets aujourd'hui regroupent en général non seulement les élèves et les profs, tous les profs, mais aussi la direction, le personnel ouvrier et les parents. Quand on veut mener un projet environnemental, développement durable dans une école, jusqu'au personnel ouvrier doit être impliqué. Parce que certains l'ont dit ce matin, si on imagine des choses mais que dans l'école on fait l'inverse de ce qu'on se propose de faire, ça ne marche pas. Et surtout pour moi, le RE et le DD, c'est un excellent liant entre l'école et le monde associatif. Via les projets ERE, l'école s'ouvre à l'extérieur. Ça, c'est une dimension fondamentale qu'on oublie trop souvent. C'est une porte vraiment d'ouverture à d'autres organismes. Très grande diversité des profs impliqués. On est très loin aujourd'hui, d'avoir uniquement les profs de sciences et de géographie et d'histoire qui s'impliquent. Aujourd'hui, on en est bien souvent aux profs de maths, aux profs de latin, aux profs de langue. qui mène les projets environnementaux. Quelques aspects moins positifs. Mais ça a été dit ce matin aussi, et ça devrait être inclus dans nos assises. Les projets environnement ne touchent évidemment qu'un nombre restreint d'élèves. On n'en fait pas partout. Et on n'en fait pas tout le temps. On en fait parfois dans telle école en troisième secondaire, mais on n'en fait plus après. Ou on en fait en cinquième ou en réto, mais on n'en a pas fait avant. Donc, en termes de cohérence dans le système, on ne peut pas dire qu'au terme de l'enseignement obligatoire, on ait un tronc commun de connaissances, de valeurs et de comportements environnementaux qui ont été installés. Ça a été installé chez certains, dans certaines écoles, à certains moments du cursus. Et donc, ça manque de cohérence si on se place au-dessus du système. Ce qu'il faut dire aussi de moins positif, c'est que les équipes, elles s'épuisent. Et puis que les enseignants qui étaient les moteurs, parfois changent d'affectation ou prennent leur pension. Donc on a parfois de très beaux projets qui finalement s'étiolent. On a aussi, on peut le regretter, parfois des projets qui sont conduits par des profs passionnés, très, trop engagés, dont certains passent parfois plus de temps à transmettre des dogmes qu'à développer l'esprit critique de leurs élèves. Ça arrive encore aujourd'hui, il faut le signaler, il faut le savoir. Enfin, on a une absence totale d'évaluation des projets, mais on peut se poser la question de savoir si on doit les évaluer. Et puis, je le déplore, d'autres l'ont fait avant moi, on a une absence de gestion de tout ce qui est ERE, EDD chez nous. Je sais à peine vous donner le nombre de projets. Je serais incapable de vous donner le nombre d'écoles qui ont vraiment des réalisations environnementales dans leurs projets d'établissement et dans leurs rapports d'activité. Je n'en sais rien, les chiffres ne sont pas disponibles. Quand certaines personnes ont besoin d'avoir des personnes ressources en matière d'environnement, que ce soit dans l'administration ou dans d'autres services, c'est dans le brouillard complet. On ne sait pas à qui il faut s'adresser, donc voilà des choses, à mon avis, qu'il faudra remettre sur le chantier. Alors, si je dois essayer de faire la synthèse et voir si la balance penche plus d'un côté que de l'autre, je vous dirais que mon avis personnel sur la situation dans l'enseignement de l'ERE et du DD chez nous, c'est ceci. Ce sont des équipes enthousiastes qui agissent dans un système désordonné, peu structuré, mais offrant une grande liberté d'entreprendre. Voilà comment je vois la situation chez nous. Quelques idées personnelles pour les assises qui vont commencer. Je pense qu'on devrait au moins se pencher durant cette année sur le concept. Je ne sais pas si on doit rester à l'ERE, si on doit passer à l'ERE au DD, ou au DD, ou à l'EDD, ou que sais-je. Moi, peu importe les sigles, je pense qu'il faut quand même qu'on se pose la question et qu'on la clarifie, en se centrant non pas sur l'étiquette, mais sur les démarches à construire et sur les valeurs à développer. Peu importe comment nous appellerons ça, même si ça peut poursuivre des objectifs différents. J'ai entendu aussi ce matin, en matière d'organisation et de structure, est-ce qu'on doit introduire massivement le RE dans les référentiels plus encore qu'elles ne le sont, est-ce qu'on doit introduire dans les programmes de cours? J'ai entendu ça ce matin. Évidemment, si on introduit plus massivement le RE dans les programmes de cours, on risque de gommer un des points faibles que j'ai cités, c'est-à-dire on aura un tronc commun espéré en fin de scolarité. Ça, c'est l'avantage. Les Français ont fait ça depuis 2004-2005. Et je lisais dans le dernier document de l'INRP, donc l'Institut National de la Recherche en Pédagogie, je lisais un peu la première évaluation de ce qu'on fait depuis 2005 chez eux, le fait d'avoir introduit massivement le RE dans des programmes, notamment en géographie, mais de manière vraiment lourde, amène deux commentaires. C'est que le RE n'est pas une matière de cours, et donc qu'on perd un peu de son aspect systémique, de son aspect global, quand on l'accroche de manière fort ardue à des disciplines. Et surtout, on devra réfléchir à ça dans l'année qui vient, les Français constatent un repli de l'école sur elle-même. C'est-à-dire que ces projets d'environnement, qui aujourd'hui font que l'école peut s'ouvrir au réseau ID, à Coren, à toutes ces associations qui font du bon boulot, le fait de remettre de manière structurelle et institutionnelle l'environnement dans les programmes fait que les enseignants se referment dans leur classe en fermant leurs portes et en faisant cours. Donc, réfléchissons à ça. Des tas d'entre vous voient les avantages de mettre ça dans les programmes. Réfléchissons aussi aux effets pervers que ça peut amener. De même, les Français ont imposé le REEDD dans les projets d'établissement. Ils l'ont imposé par voie de circulaire. Attention, pour le moment, les projets remontent de la base vers les structures. Vous savez comme moi, enseignant, que s'il y a bien quelque chose que le monde enseignant rechigne, c'est les projets qui viennent du sommet et qui descendent vers la base. Réfléchissons bien avant de les lancer dans ça. Et puis, si on veut généraliser, c'est bien. Mais si c'est pour généraliser sans les moyens humains et financiers, soyons doublement prudents. Enfin, en matière d'évaluation, vous avez entendu ce matin, oui, ce serait bien qu'on évalue dans les écoles, qu'on évalue le travail au bout d'X années. Qu'est-ce qui s'est vraiment fait? Est-ce que c'est vraiment porteur en termes de valeur, de comportement? Mais évaluer qui? Évaluer quoi? Et évaluer comment? Moi, mon point de vue, ça pourrait être que dans évaluer, il y a valeur. Et que si c'est pour faire une évaluation où on ne pointe pas ce qui ne va pas, mais où on entre dans une pédagogie de la réussite et de l'action, alors oui, je serais pour qu'on fasse une évaluation dans ce cadre-là des projets. Enfin, et j'ai vraiment été vite, hein, Marie. Je terminerai en nous souhaitant, pour cette année qui vient, d'avoir eu dans notre scolarité beaucoup d'enseignants tels que Albert Jacquard les rêve. Pour Albert Jacquard, le but d'un enseignant est de fabriquer des emmerdeurs. J'espère que cette année qui vient, nous serons de bons emmerdeurs, mais au sens où Jacquard l'entend. C'est-à-dire celui qui est le grain de sable, qui fait grincer la machine et l'empêche de ronronner, qui met le doigt sur les problèmes en essayant de les résoudre. Je vous remercie.